France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
En couple, à la ville comme à la scène, elles racontent leur tentative de faire communauté dans la Gouineraie. Rebecca Chaillon et Sandra Calderan seront mes invités à partir de 13h. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critique. Aujourd'hui, on parle actualité de la bande dessinée avec « Et toi, comment ça va ?» de Charles Berberian et Michel Stanjowski, c'est chez Casterman, et « Basse-Coulard » de Franz Duchazeau, qui paraît chez Sarbacane. Vous écoutez les Midis de Culture, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et pour débattre aujourd'hui autour de la table, Catherine Robin, grand reporter, critique de bande dessinée chez Elle, bonjour.
Bonjour Marie.
Lucie Servin, journaliste spécialiste de littérature et de bande dessinée, bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à toutes les deux. On commence donc avec « Et toi, comment ça va ?» publié chez Casterman, un album en forme de correspondance entre deux amis qui se trouvent être aussi deux auteurs de bande dessinée. L'un, c'est Charles Berberian, Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2008 pour ses albums avec Philippe Dupuis. L'autre, c'est Michel Stanjowski, dessinatrice et scénariste. Quand la BD commence, nous sommes en octobre 2024. Israël bombarde le Liban et Berberian, qui a passé son enfance à Beyrouth, prend des nouvelles de son ami qui dirige le département art graphique de l'Académie libanaise des Beaux-Arts. S'engage alors un dialogue dessiné sur ce que la violence fait au corps et aux âmes et sur la folie des hommes qui précipitent ce monde dans la guerre. Catherine Robin.
C'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est vraiment un livre sur ce que la guerre fait aux hommes, à deux auteurs de bande dessinée, aux dirigeants qui dirigent les manettes de ces guerres, et bien évidemment aux victimes civiles de ces guerres. Mais je trouve que la correspondance, c'est un genre intéressant parce qu'il donne accès à quelque chose d'autre que la fiction ou l'essai. Et cette correspondance-là, donne lieu à un échange entre deux styles et deux espaces-temps. L'un est plutôt à Paris, même s'il va aller à Beyrouth à un moment, mais l'un est plutôt à Paris, l'autre est à Beyrouth. Et ils ont tous les deux en commun leur amitié, bien sûr, mais surtout cette question au cœur des artistes dans un contexte de guerre, c'est-à-dire à quoi on sert. Quel est le sens de notre activité, de ce qu'on fait. Tous deux, ils le disent au début du livre, sont empêchés par leur tristesse, leur peur, leur culpabilité. Ils se sentent complètement impuissants. Et c'est ça que va aller creuser le livre, va aller chercher. Est-ce que l'art finalement n'est pas aussi anodin que cette question qui est posée en titre? Et toi, comment ça va? Cette question, quand on la pose en temps de paix, elle est totalement anodine. Elle l'est beaucoup moins quand les bombes résonnent à nos portes. Et je pense que leur projet, c'est vraiment essayer, comme ils n'arrivaient plus à... Leur cerveau était totalement sidéré, leur main était paralysée, et bien c'est une façon d'essayer de se remettre au dessin, de remettre de la forme dans l'informe de la violence de la guerre. C'est aussi mettre un peu de distance par rapport à ces émotions. Il y a notamment Michel Stanjowski qui parle de ces nuages. Elle dit à un moment, je ne peux dessiner que des nuages, les nuages gris des bombardements, et elle les regarde comme une spectatrice presque donc d'un spectacle qu'elle regarderait pour mieux mettre à distance ce qui est trop effractant pour elle, qui est sous la menace vraiment directe des bombes.
Alors Lucie Servin, on peut peut-être commencer aussi par décrire peut-être les deux styles, parce que c'est très intéressant évidemment de voir déjà comment elle se remet à dessiner, Michel Stanjowski, mais comment l'un et l'autre ont vraiment évidemment une patte très différente.
Ils ont une patte très différente, et c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un livre sur la guerre, sur comment on la reçoit intimement. C'est un livre aussi sur le dessin. Et ils ont vraiment deux dessins différents. Ils sont tous les deux saturés, leur espace mental est saturé. L'un, Charles Berberian, parce qu'il est à Paris et qu'il est intoxiqué par l'actualité médiatique. Et forcément, ça résonne avec ce qui arrive en ce moment, ce bombardement d'actualité. Et Michel Stanjowski, elle est au Liban, elle-même saturée, elle n'arrive plus à dessiner. Et quand elle dessine, donc elle dessine au crayon. Donc c'est aussi une activité qui oblige à ralentir. On voit que son dessin en plus crée des intensités. Elle a un rapport aussi à la mer. On voit qu'il y a quand même dans le dessin une envie d'apaisement, une forme d'échappée méditative. Même quand elle va traiter de choses très énervées, parce que voilà, c'est un livre sur la colère, de la même manière pour Charles, qui lui travaille au lavis, avec des images beaucoup plus saturées, avec de l'encre, c'est très sombre, et en même temps, ce dessin permet à la fois des embardés vers, je dirais, de la caricature ou du dessin de presse, et à la fois une forme d'échappée presque abstraite qui permet de vraiment de créer de l'émotion, de cette colère en fait. Et la guerre, c'est ça, c'est cette colère qui va au plus fort des ressentis et qui va jusqu'à la haine aussi. Mmh. Et le dessin permet à la fois d'exprimer ça, cette horreur, cette beauté, et parce qu'il y a la correspondance dessinée, l'envie d'essayer de comprendre. Et c'est aussi un livre qui est très très intéressant aujourd'hui de le lire, parce que ça parle de la guerre de 2024, ça s'achève au printemps 2025, mais c'est aussi un livre qui parle du Liban, ce pays qui est qui enchaîne conflit sur conflit depuis la guerre civile en 75, date à laquelle Charles Berberian a été obligé de fuir ce pays, et qui permet en fait de comprendre ce qui se passe et comment cette espèce de fatalité, d'entassement de conflit, puisque il va, par exemple, Charles va introduire un tiers personnage dans ce livre, qui est Fouad El Khoury, qui est un photographe qui lui-même a eu cette démarche d'aller photographier le quotidien de Beyrouth pendant la guerre civile, qui lui-même était un militant de gauche engagé pendant la guerre civile. Et donc il y a cette espèce de revendication, enfin de revendication d'essayer de plonger, de mettre en perspective, de comprendre. Et autre chose, c'est un livre aussi très très engagé. C'est un livre coup de poing, c'est un livre qui dénonce très clairement la politique israélienne, qui ne met pas dos à dos le Hezbollah et parce que vraiment, on a l'impression, Michel Stanchowski dit qu'elle est otage finalement du Hezbollah, mais qu'il y a un moment donné, il faut dire stop à la politique d'extrême droite menée par Netanyahou, qui conduit à cette guerre qui va amener encore d'autres traumatismes. Et ça, c'est un livre où même pour Charles Berberian, d'un autre côté, c'est peut-être son livre le plus engagé, puisque lui, il va s'en prendre beaucoup à Donald Trump, et il y a comme ça quelque chose d'exutoire en fait dans ce livre.
Et notamment dans effectivement ce que vous appeliez comparé à des caricatures de presse, il y a vraiment des visages qui apparaissent comme ça sur ce Trump, le porte-parole de l'armée israélienne, enfin voilà, Catherine Robin.
Oui, oui, des planches plus dures, ça alterne vraiment, parce que il y a aussi chez eux une recherche du beau là où ils se nichent encore, et je n'ai jamais été au Liban, mais je crois savoir que c'est un magnifique pays et doté d'une lumière fabuleuse qu'on peut apercevoir avec en effet les crayons de couleur de Michel Stanchowski, pardon. Mais en effet, ces caricatures d'hommes politiques qui disent, parce que tout le monde en prend pour son grade, hein, en effet, c'est très engagé, mais tout le monde en prend pour son grade, et je trouve que par l'intervention en effet de ce photographe Fouad El Khoury qui a documenté la guerre du Liban, mais sans jamais se revendiquer photographe de guerre lui-même. Mais c'est un peu la même chose finalement, ces deux dessinateurs, c'est-à-dire que ils sont à la fois des dessinateurs de guerre, parce que on est en plein dedans, et le livre a encore plus d'acuité ces jours-ci, bien sûr. Comme on le disait en introduction, il montre davantage ce que fait la guerre aux hommes. Mmh. Et il y a notamment à la fois Charles Berberian qui raconte l'histoire de ce Liban qui est victime de ses voisins et qui font la guerre par Libanais interposés depuis des décennies. Et alors ça sera très intéressant pour ceux qui connaissent le Liban sans vraiment le connaître et sans vraiment connaître cette histoire. Mais il y a aussi, pour ceux qui la connaissent, quelque chose de l'ordre de la quotidianité. De la quotidienneté, de la familiarité, de la vie au Liban. Il y a notamment cette planche où elle raconte que peu importe qu'on les déplace, les gens du Liban Sud, qu'on les fasse aller vivre là, la vie quotidienne reprend le dessus. Le coiffeur va recoiffer des gens, comme l'État les a totalement abandonnés, puisque l'État libanais est aux abois. Les habitants ont l'habitude de fonctionner en autonomie. Et bien, il montre aussi ces solidarités là. et en fait, ce livre, encore une fois, la correspondance, c'est quand même un genre intéressant, et ça m'a fait penser à un livre qui est sorti cette année, qui s'appelle Shadi, qui était un livre de Mana Neyestani, qui est sorti chez Ça et Là, qui était aussi une correspondance entre trois écrivains iraniens, là, et qui racontait l'histoire d'une jeune femme qui est décédée dans l'accident d'avion qui reliait Téhéran à Montréal en 2019, et ils vont échanger des lettres entre eux pour à la fois ériger une enfin parler de la mémoire de cette jeune femme, mais aussi parler de la situation politique iranienne, et je pense encore une fois que si les historiens se penchent tant sur les correspondances, c'est parce qu'elles apportent vraiment quelque chose de singulier à pour documenter une époque, et qu'un livre comme celui-ci ça sera le cas.
Ouais. Un dernier mot, Lucie?
Oui, moi je voulais dire que c'était aussi une déclaration d'amour au Liban. Ouais. On voit une ville comme Beyrouth qui est détruite, qui est presque laide. Enfin, la couverture reprend une des planches où c'est Michel Stanjowski qui dit, voilà, quand il n'y a pas ces fumées, on a presque l'impression que le cauchemar est terminé. Parce qu'il y a cette mer, parce qu'il y a le cap, parce qu'il y a la nature. Et c'est aussi ce qui reprend le dessus, finalement, cette déclaration d'amour à la terre libanaise qui les rejoint, en fait, à la fin, et qui fait que ça les rejoint aussi avec Fouad El Khoury, qui aujourd'hui habite dans le Chouf, qui est une réserve naturelle dans les montagnes. Et donc, voilà, malgré la guerre, il y aura toujours peut-être du beau, et c'est ce que les récits humains au ras du sol racontent et peuvent encore laisser espérer, parce que c'est assez désespérant et assez loin la paix aujourd'hui.
Et toi, comment ça va, de Charles Berberian et Michel Stanjowski, publié chez Casterman. C'est le moment des coups de cœur, et là vous en avez un chacune. On commence avec vous, Catherine Robin.
Alors, je voulais vous parler d'un roman graphique assez bouleversant qui est signé par Mathieu Persan, qui est un illustrateur qu'on connaît pour ses affiches et ses couvertures de livres. Là, il raconte, c'est un livre autobiographique, il raconte l'histoire de sa famille confrontée à la dépression adolescente. Il a une jeune fille aînée, et le livre s'ouvre sur un Mathieu Persan qui vient d'enterrer son papa et qui reçoit un coup de fil de la police qu'il informe que sa fille a posté un message annonçant un passage à l'acte, une tentative de suicide le lendemain. Donc tout à coup, c'est le tremblement de terre dans cette famille et la descente aux enfers. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer, pourquoi leur fille aînée, tant aimée, ne veut plus vivre. Il faut accompagner aussi, et c'est bien difficile d'accompagner des ados qui vont mal aujourd'hui, alors que les lieux de soins sont saturés, qu'il faut montrer patte blanche pour pouvoir rentrer dans une institution. C'est presque pire que Parcoursup, le dit-il dans le livre. Il faut certains centres de soins sont pas toujours bien traitants avec les ados. Donc c'est un livre à deux voix. On entend la voix de Mathieu Persan. Il aurait voulu que sa fille écrive. Elle, malheureusement, la maladie a pris le dessus, donc c'est le fruit d'un dialogue délicat entre eux, mais on entend quand même la voix de sa fille, et c'est un très beau noir et blanc pour accompagner cette histoire, et cette histoire qu'il a choisi de faire illustrer, parce que c'est son langage, mais aussi parce que ça aide à créer des métaphores qui aident à toucher du doigt des réalités peut-être qu'il n'arrivait pas à mettre en mots. Et enfin, je voudrais juste dire, relativement à ce livre, que c'est un livre qui est utile, vraiment utile, parce qu'il est à la fois intime, et beaucoup de familles se reconnaîtront peut-être dans cette expérience, et qui est aussi très politique, c'est-à-dire qu'en fermant le livre, j'ai repensé à un papier qu'avait signé Emmanuel Carrère dans Le Guardian, quand il suivait Emmanuel Macron dans un déplacement international. Et en aparté, le président avait dit à Emmanuel Carrère, ou en tout cas, je ne sais pas s'il était adressé, mais bon, bref, il avait dit: je n'ai jamais été un adolescent, je n'aime pas les adolescents, je ne les comprends pas. Alors je l'encourage à lire ce livre vivement, parce que je ne sais pas s'il trouvera des réponses à ces questions, mais il saura dans quel état se trouve une partie des ados aujourd'hui.
Coup de cœur donc de Catherine Robin, le passage de Mathieu Persan chez Hachette. Et maintenant c'est à votre tour, Lucie Servin.
Alors moi j'ai choisi un livre très très différent, puisque le passage était en noir et blanc, et là on est vraiment dans la féerie de la couleur. Marly ou la neige en été, d'Emmanuel Lantham, aux éditions Réalistes. Alors déjà c'est un livre très beau, c'est un objet qui se présente comme il est très compact, comme comme une espèce de coffret d'aventure. Rien que la couverture, moi, m'a rappelé un peu les voyages extraordinaires de Jules Verne, ses éditions Hetzel. Sauf que quand on l'ouvre avec ce format un peu carré, en fait, on se retrouve devant des planches presque panoramiques, très cinématographiques. Et c'est vraiment, ça nous transporte dans un monde à la fois nostalgique de Winsor McCay, des romans illustrés presque, et avec, parce que c'est l'auteur qui fait aussi de l'animation, dans quelque chose de très moderne, un onirisme à la Miyazaki qui va vers l'animation, vers le jeu de vidéo. Alors l'histoire, Marley, c'est un bébé locomotive. Alors, elle est née prématurée. Elle arrive, elle débarque comme ça dans la gare du Nord. Et alors, la gare du Nord, c'est cette gare où elle va être l'héritière, en fait, en charge des lignes du Nord. C'est les lignes, évidemment, les plus dangereuses, donc les plus estimées. Donc, c'est celle qui chapeaute un peu le réseau ferroviaire. Sauf que Marley, elle déçoit. Elle est toujours en retard. Elle ne fait jamais comme il faudrait. Elle est vraiment pas à la hauteur. Et partout où elle passe, en plus, tout déraille. Donc, c'est une espèce d'odyssée ferroviaire, un peu foutraque, mais qui reprend, en fait, tous les code du conte, et peut-être déjà à commencer celui du partage intergénérationnel. C'est un livre qu'on peut lire avec les enfants qui vont adorer, qui vont s'identifier à cette espèce de locomotive qui est très mignonne. En plus, c'est comme un doudou, elle est toute ronde. Mais en même temps, comme tous les contes, il y a évidemment différents niveaux de lecture. Et ce dont nous parle Marley, c'est du rapport à l'ordre, du rapport à l'autorité et finalement de la valeur de la liberté. Et c'est là où c'est fort, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une odyssée, on reprend presque les codes d'Ulysse. À un moment donné, il y a une sirène, enfin qui est un monstre chevelu de l'eau, voilà. Mais on est une odyssée où le héros est un héros pas comme il faut, est un héros du pas de côté, est un héros de l'échec finalement. Et c'est ce qui plaît dans Marley, c'est cette espèce de philosophie qui agit un peu comme une médecine douce, un plaisir visuel qui nous rappelle notre besoin de rêve, de douceur et de tendresse, et qui, je voudrais juste finir avec la conclusion qui est heureux sont les amis de Marley. Et moi, je pense que je peux me compter parmi les amis, et tous ceux qui pourront lire ce livre, je pense que c'est vraiment un morceau de sucre, un morceau de bonheur.
Marley, voilà. Ou la neige en été, d'Emmanuel Lantham, chez Réaliste. Merci.
Monsieur Bascoulard, vous êtes un dessinateur bien connu de tous les habitants de Bourges, même dans la région d'ailleurs. On s'arrache littéralement vos dessins dans les magasins de la ville qui en vendent. Et vous dessinez dans des conditions matérielles détestables. Pourquoi cette chose-là ? Expliquez-moi.
Ce veau de pauvreté n'est peut-être qu'apparent. Ce sont les circonstances qui l'ont voulu, bien sûr, d'être dans mon état matériel actuel. Mais somme toute, il faut dire que ces choses matérielles n'ont toujours été pour moi que d'une franche relativité, d'une relativité toute secondaire.
Qu'est-ce que l'existence matérielle pour vous ?
En somme, l'existence matérielle pour vous, ce serait de me suffire juste le nécessaire.
On part maintenant à la rencontre d'un homme extraordinaire. Marcel Bascoulard avait un don pour le dessin. Il avait choisi de vivre dans le dénuement. Dans les années 60, il arpentait les rues de Bourges et vendait ses œuvres quelques dizaines de francs pour manger et nourrir ses chats aussi. Des vues de la cathédrale, saisies dans ses moindres détails, des rues, des trains, sa passion d'ailleurs. Il se faisait prendre en photo dans des tenues féminines. Il écrivait aussi des poèmes, mais en réalité, il ne désirait rien de tant que d'être seul, tranquille, avec ses mots. Il finira assassiné en 1978 dans sa cabine de camion abandonnée, et dans ses planches en noir et blanc, l'auteur Franz Duchazot le fait revivre, silhouette courbée sur son tricycle, dans une ville et une époque en plein bouleversement. Lucie Servin.
Oui, écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Franz Duchazot est un peu spécialisé dans les biographies, puisqu'il a fait dernièrement Robert Johnson. Enfin, il a fait beaucoup de choses sur la musique, sur le blues. Je pense que c'est une des premières fois où il fait un livre sur un dessinateur, et quel dessinateur, parce qu'en soi, Marcel Bascoulard est un personnage que moi j'ai découvert à travers un très très beau livre qui avait été édité par Frédéric Pajac au Cahier Dessiné, où déjà on voyait l'étendue d'une œuvre protéiforme, parce qu'en fait on peut être sidéré par cette virtuosité, cette méticulosité de tous les paysages qu'il a fait de Bourges, mais il y a aussi les tableaux abstraits, sa fascination, ses autoportraits en robe, puisqu'il se prenait en photo dans des robes qui se faisaient confectionner, absolument fabuleuses, avec une démarche qui est très dans de art contemporain. Et puis à côté, il écrivait des lettres. Donc il y a énormément, et de poèmes aussi, il y a énormément de matière, et toute cette matière est fusionnée dans cette biographie qui est avec une narration très intelligente, j'ai trouvé, puisqu'en fait on se situe vraiment dans les deux dernières années de la vie de Bascoulard, avec cette début de reconnaissance. Il y a une exposition à la Maison de la Culture de Bourges où les œuvres sont exposées, et il y a ce journaliste de RTL qui lui tend le micro, et ça va être, cette reconnaissance va être en même temps le tragique destin qui s'annonce, puisqu'il sera assassiné. C'est pas, quand on connaît Bascoulard, on le sait, c'est pas grave. Mais après, ce que je veux dire, c'est que dans cet hommage, on sent que France Duchazeau a mis en scène cette tragédie, mais il a mis en scène le fer du dessin. C'est un hommage presque habité. J'ai presque eu l'impression qu'il y avait une filiation revendiquée avec Marcel Bascoulard, cette figure de marginal, cette figure de l'anticonformisme, et cette figure surtout du harcèlement de la société, de l'anticonformisme, qui est finalement assassiné par la société. Et il y a une virtuosité du dessin, il y a une forme une envie d'habiter en fait son trait, sachant que France Duchâteau ne travaille qu'en noir et blanc. Et ça, Marcel Bascoulard avait aussi un peu de couleur, notamment ses abstraits sont souvent en couleur, sans parler des pastels, mais néanmoins il y a une vraie humilité du dessinateur qui rend hommage aussi à l'humilité de Marcel Bascoulard, dans le sens où il y a quelques références qu'il met, c'est aussi celle du livre de Job. Donc c'est quand même quelqu'un de c'est cette pauvreté assumée
et revendiquée. Catherine Robin.
Ouais, moi j'aime beaucoup chez cet auteur France Duchâteau son intérêt pour les personnages de d'artistes laissés pour compte, de zonards magnifiques. D'ailleurs, vous parliez de musique, Lucie, mais je me suis dit, c'est marrant, il aurait pu faire Moondog, parce qu'ils sont à peu près de la même génération. Clochard Céleste, New-Yorkais, déguisé en viking dans les rues de New York, aveugle. Bon, il a choisi finalement de faire un artiste dessinateur dans les rues du Berry, enfin à Bourges.
Mais il faut préciser que Bascoulard, il n'est pas excentrique. Quand on dit habillé en femme et tout, on pourrait imaginer un truc très drague. C'est pas du tout le cas.
Voilà. C'est ça qui est très intéressant, c'est que on finit ce livre en se disant qu'on n'a pas percé le mystère Bascoulard, en fait, que les premières pages sont très belles parce qu'elles posent le décor, une photo, une silhouette féminine, on ne sait pas que c'est un homme, si on ne connaît pas l'histoire de Marcel Bascoulard, on ne sait pas que c'est un homme, des immeubles en construction, des grues, des maisons en démolition, parce que Bourges à ce moment-là, c'est fin des années 60, début des années 70, est en train le paysage de Bourges est en train de changer, comme de nombreuses villes moyennes en France. Et c'est dans ce contexte-là que Marcel Bascoulard vit. Et tout de suite, sa première reproduction, c'est un autoportrait de lui. Il se prend en photo, retardateur. Et on découvre en effet que c'est un homme qui s'habille en femme. Et là, il y a quelque chose dans son regard de vraiment assez inquiétant, hein, très habité, peut-être un peu de folie aussi à l'intérieur de ce regard, mais en tout cas il y a quelque chose de vraiment d'insaisissable, et je trouve que le livre il garde cet incompréhensible, cet inaccessible, et il essaye pas de nous donner des réponses. Cette reconnaissance dont vous parlez, ça aussi c'est étonnant. Il y a une grande un grand romanesque dans la vie de Marcel Bascoulard. Et sa mère a assassiné son père. Sa vie commence commence avec un assassinat, elle finit avec un assassinat. Ensuite, il y a cette reconnaissance malgré la marge. Il est très très à la marge. Il vit vraiment dans une cabine de camion, sans se laver beaucoup. Il vend ses dessins uniquement. C'est pas vraiment ce qu'il préfère faire dans la vie, puisqu'il le vend uniquement pour nourrir ses chats. Lui, ce qui l'intéresse, on l'a entendu dans l'extrait audio. Lui, c'est les nourritures immatérielles, c'est apprendre, lire de la poésie, apprendre des connaissances scientifiques, apprendre des langues étrangères, etc. Et malgré ça, il y a chez lui ce besoin de se prendre en photo, ce souci de s'habiller en femme, donc avec un intérêt pour le vêtement. Il va chez une couturière. D'ailleurs, cette reconnaissance, elle n'est pas seulement institutionnelle par la Maison des Arts de Bourges. Elle est aussi, il est à la fois très rejeté par des habitants qui se pincent le nez quand ils le croisent, quand ils distribuent ses puces comme ça ici et là. Mais il est aussi très proche de la couturière, du photographe, de Monsieur Leboeuf, le bien nommé boucher, qui va finir par collectionner une partie des œuvres de Basse-Coulard. Donc il y a vraiment un paradoxe. Cet homme n'est qu'un paradoxe. Et encore une fois, on referme le livre, on ne sait pas très bien qui a été ce personnage. Sa trajectoire, c'était ça. Mais en elle-même, elle contient déjà assez de romanesque pour nous intéresser du début à la fin. Et moi, j'ai résisté à l'envie d'aller, parce que moi, je ne connaissais pas ces images, et j'ai résisté même à aller à la fin du livre en me disant qu'il y avait une photo forcément à la fin. Et l'univers construit par Duchazot m'a suffi amplement.
Et c'est vrai que c'est aussi rapidement l'histoire vraiment de ces villes, comme vous le disiez, Catherine, de ces villes moyennes qui, à la fin des années 60, disparaissent quasiment les centres-villes, on voit naître ces immenses immeubles. C'est là-dedans, et c'est la fin d'un monde et c'est la fin de son monde.
C'est la fin d'un monde, c'est la fin peut-être même d'une c'est cette espèce d'artiste hors société, mais qui est en même temps en regard par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire que sur ces paysages, finalement, on voit que Basse-Coulard, il a quand même il renoue avec les traditions des paysagistes du 19e siècle, et en même temps, il est dans cette bourge qui se transforme, qui se modernise, et aussi qui se déshumanise, parce que il y a quelques personnages qui sont ses alliés, peut-être dans la ville, mais il y a quand même ces pages qui sont la violence, en fait, de la violence de la société. Et moi, ce qui m'amuse le plus, c'est que Basse-Coulard, il a conscience de ça. Et il dit, moi, j'emmerde la société.
Marcel Basse-Coulard de France, Duchazot, publié chez Sarbacane. Lucie Servin, Catherine Robin, merci beaucoup d'être venue dans les Midis. Vous retrouvez les références des 4 albums dont nous avons parlé aujourd'hui sur la page des Midis de Culture. Évidemment, restez avec nous, on revient tout de suite pour les Midis.